et pure et simple de la licence de diffusion. Bertrand Éclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
Ainsi se referme ce journal international. Où que vous soyez sur la planète, merci de l'avoir écouté.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins, sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, mardi, on sera avec le théâtre du Champ de Bataille et jeudi avec la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin et aussi avec Angers Fashion Night. Et ce soir, on sera avec des étudiantes en événementiel de l'UCO d'Angers. Elles ont décidé de monter un événement avec d'autres élèves autour de l'intelligence. Il y aura notamment un grand jeu qui prend appui sur la théorie des intelligences multiples qui est défendue par, alors je sais pas si je vais bien le dire, Howard Gardner. Ça sera le 10 avril au salon Kurnonski de 17h à 22h. Je vous en dis pas plus, on découvrira ça dans quelques instants. Et ce soir, on a un deuxième invité, un deuxième sujet avec Willy qui viendra nous présenter la quatrième soirée de Cours en Folie saison 3. Notez bien la date, ça sera le 7 avril. En fin d'émission, on aura aussi la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi Yaël. Bonsoir Yaël.
Bonsoir.
Les transports pourraient bien être perturbés dans les prochains jours.
Oui, c'est la nouvelle qui est tombée hier soir. Un mouvement de grève est à prévoir pour les bus et tramways d'Angers. Ce vendredi 4 avril, le réseau de transport en commun Irigo devrait être très perturbé, d'après les informations recueillies par Angers Info. Les organisations syndicales CFDT et UNSA auraient appelé à un mouvement de grève d'ampleur en raison du manque de sécurité pour les conducteurs et des revalorisations salariales inabouties. Au cœur des revendications, donc, la sécurité des conducteurs est pointée du doigt. Selon les syndicats, la hausse des agressions aurait doublé en un an, ce pourquoi ils souhaiteraient l'installation de vitres anti-agression. La revalorisation des salaires est l'autre point de désaccord avec la direction, qui refuse leur augmentation selon les syndicats.
Une enquête ouverte après que deux policiers aient été percutés par une moto.
Ce jeudi 27 mars, deux policiers du groupement de sécurité publique ont été renversés par une moto à Angers alors qu'ils participaient à un contrôle à VTT. Le pilote de cette moto de grosse cylindrée aurait, je cite, refusé d'obtempérer et aurait délibérément foncé sur eux, selon le procureur de la République, Éric Bouillard. Un policier a été projeté au sol et le second a été blessé au passage du véhicule. Philippe Chopin, préfet de Maine-et-Loire, a, je cite, condamné avec la plus grande fermeté ces faits de violence et de tentative d'homicide. Le procureur a précisé qu'une enquête pour meurtre avait été ouverte suite à cet événement.
Une enquête immersive et solidaire s'organise à Angers.
Parrainé par Romain Colucci, l'événement Deux pas dans la lumière se prépare dans l'ombre. Le 8 avril prochain, de 14h à 21h, les salons Kurnonski seront rythmés par des défis collaboratifs autour de valeurs d'entraide, de partage et de lien social. Les 10 étudiants de l'UCO d'Angers à l'origine du projet proposeront aux participants d'y découvrir différentes actions menées par des associations telles que les Restos du Cœur, Copains, Action contre la faim, Une lettre, un sourire, Action éducation ou encore l'entraide scolaire amicale. À l'issue du parcours, un espace de fête sera dédié à la célébration de la solidarité autour de boissons, de nourriture et de musique. L'entrée est gratuite sur inscription et sans limite d'âge.
Merci Yael, on te retrouve dans 2 semaines et juste avant de commencer notre émission, si vous êtes amateur de rhum, sachez que la marque noire qui produit ses rhums arrangés de manière artisanale va ouvrir ses portes au public. Vous pourrez goûter, acheter mais aussi cuisiner votre rhum arrangé. Ça sera le samedi 5 avril de 10h à 18h à Loire-Authion. Et maintenant, on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais tout à l'heure, du coup ce soir on est en compagnie de deux étudiantes de l'UCO d'Angers, de Lucie Bélanger, bonsoir.
Bonsoir.
Tu Tu es donc chef de projet et la chargée de communication de l'événement et de Maëlys Bourgeot. Bonjour. Tu es chef de projet et chargée de partenariat donc pour l'événement. Qui es-tu? Alors, c'est pas qui, c'est QI. Oui. Pour le QI, j'imagine. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter l'événement dans les grandes lignes? Comment il s'organise, Lucie?
Alors, c'est un événement qu'on va organiser en trois temps. Les salons Kandinsky, en fait, il y a un sas un peu à l'intérieur. Donc, quand on rentre, il y a un escalier et ça sera la première partie. On va mettre un petit peu le public sous tension. On va essayer de recréer une atmosphère un petit peu oppressante pour rappeler justement l'oppression de la société par rapport aux standards, aux cases qui nous demandent un petit peu de trouver tout au long de notre vie. Et une fois qu'ils auront monté les escaliers, ils vont pouvoir accéder à la salle principale où ils trouveront donc un jeu de plateau grandeur nature pour pouvoir tester les 9 types d'intelligence de Howard Gardner, pour pouvoir se tester et mobiliser ces 9 types d'intelligence. Et enfin, on les redirigera vers une dernière partie où il y aura restauration, discussion. Et c'est ici qu'on va faire venir pas mal d'intervenants qui vont discuter de leur profession et de l'intelligence qu'ils mobilisent au quotidien.
Et donc, Maëlys, si tu peux nous parler de la naissance de ce projet, pourquoi ce thème de l'intelligence? Comment vous avez trouvé toutes ces idées?
Alors, c'était pas vraiment voulu. De base, on a tiré au sort un thème, un grand thème, qui est le thème de l'intelligence. Ensuite, on s'est réparti par rapport à tout le groupe des recherches sur l'intelligence. On en est venu à la théorie de Howard Gardner sur les intelligences multiples. Et on a vu aussi qu'il y avait un besoin de revalorisation de soi par rapport à l'intelligence. On a cette pression sociale liée au QI, d'où le nom de notre événement par exemple, la pression sociale de rentrer dans une case, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cet événement.
Et donc on peut peut-être décrire pour nos éditeurs un petit peu ce que c'est la théorie des intelligences multiples, parce que peut-être que tous ne le savent pas. Simplement, qu'est-ce que c'est, Maëlys?
Il existe 9 types d'intelligence. En fait, une personne intelligente, selon Howard Gardner, ça n'existe pas. En fait, on est tous composés de 9 types d'intelligence. Donc, par exemple, pour donner des exemples, il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence corporelle kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle, musicale, etc. Donc, il y en a 9. Et en fait, on est tous composés de ces 9 intelligences à différents degrés. Donc, par exemple, moi, je vais être plus, intrapersonnelle, et je vais être moins logico-mathématique. Sauf qu'on est tous... On est tous composés de ces 9 intelligences et à différents degrés, en fait. Voilà.
Alors, du coup, c'est quoi l'objectif principal de l'événement? Tout à l'heure, vous parliez de valoriser l'intelligence de chacun. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou pas?
On veut vraiment faire comprendre à notre public, comme je l'ai dit au début, on va un petit peu le mettre sous tension. Il va un petit peu croire qu'il va devoir se tester et trouver son intelligence. Et plus ça va, plus en fait ils vont comprendre à la fin, un petit peu au moment du dénouement, qu'il n'y a pas d'intelligence qui est plus importante qu'une autre. On est tous intelligents à notre manière, et que si on n'a pas l'intelligence musicale qui est innée chez nous, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on est bête et qu'on est moins intelligent que quelqu'un d'autre.
Il y a souvent cette pression sociale, notamment mise à l'école, dès le collège et au lycée, où on doit trouver, enfin on doit être meilleur, on doit être hyper performant dans les maths, dans le français. Et puis les personnes qui sont pas forcément très à l'aise à l'école, elles sont souvent mises de côté, parce qu'on va pas se mentir que la filière professionnelle, elle est pas très bien mise en avant. Ensuite, quand on arrive au lycée, il faut absolument trouver sa spécialité, rentrer dans cette case, savoir ce qu'on veut faire. Alors que c'est pas ça qu'on veut montrer, en fait. On est tous intelligents à notre manière, on est tous différents, et c'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on est complètement débile, en fait. Voilà.
Et si on parle un petit peu maintenant du programme, notamment des intervenants, est-ce qu'on peut citer quelques noms, par exemple?
Oui, bien sûr. En fait, on a voulu faire intervenir des personnes dont le métier mobilise un type d'intelligence, mais pas forcément très précisément. Donc, par exemple, on va avoir des neuroscientifiques qui seront donc pour le côté très justement scientifique de l'intelligence. Ils vont expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc là, on aura Thierry Bélanger, par exemple. Mais sinon, on a aussi contacté des intervenants qui vont plus mobilisés dans leur métier. Donc, par exemple, on a une olfactothérapeute qui s'appelle Noël Piquet et qui vit vraiment autour de la nature et qui utilise les plantes pour faire des thérapies. On a contacté aussi un médium, par exemple, pour l'intelligence existentielle, c'est le rapport avec la vie, la mort, etc. Donc, on a vraiment tout un panel d'intervenants très différents pour expliquer ça.
Et quel genre d'activités ils vont proposer? Ça va être des activités ou justement plutôt des, je sais pas comment on dit, des discours, des choses comme ça?
Ça sera plus sous forme de discours. On leur a proposé deux possibilités, soit de faire une sorte un petit peu format conférence de 15-20 minutes, soit de juste discuter, parce que ça sera une grande salle avec restauration, donc discuter avec le public qui viendra de terminer le grand jeu.
Alors du coup, tu viens d'en parler, il y aura un grand jeu un petit peu immersif, si j'ai compris. Est-ce qu'on peut le décrire? À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que ça va être?
Donc en fait, quand le public va monter cet escalier avec cette pression sociale, il va arriver en haut de l'escalier où il va avoir deux choix à faire. Donc le premier choix, c'est est-ce que l'intelligence pour toi, c'est s'adapter, ou alors est-ce que l'intelligence pour toi, c'est tout savoir directement? Donc à partir de ce choix-là, donc deux portes, il y aura un parcours avec 9 cases, donc qui vont symboliser 9 cases de jeux de plateau, et les 9 intelligences. Donc chaque case, il y aura un défi lié à l'intelligence. Et le public va se tester par rapport à ce défi-là.
On va continuer à parler de tout ça juste après, notamment de l'organisation, du lien que ça a avec votre parcours scolaire. Mais juste avant tout ça, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Renaissance de Auristel sur le 101.5 FM.
Oh, no.
écoutait Renaissance de Auristel sur le 101.5 FM et nous on est toujours avec nos invités du soir pour parler de l'événement autour de l'intelligence. Donc ça sera le 10 avril prochain si je dis pas de bêtises. On est toujours donc avec Maëlys et Lucie pour en parler. Est-ce que ça a été compliqué à organiser un tel événement? Comment on s'organise pour créer tout ça, Maëlys?
Alors oui, c'est compliqué à organiser. Déjà pour obtenir le lieu, alors c'est certes la salle qu'on a choisie, c'est assez simple, mais c'est quand même très long. On s'est adressé à la mairie d'Angers, donc c'est des délais qui sont assez longs. Ensuite, y a la gestion d'équipe qui n'est pas simple. Gérer les conflits, gérer les différentes pôles, les différentes personnes, les différents caractères de chacun, c'est assez compliqué. Et puis même toute la mise en place pratique, la scénographie, appeler les intervenants, trouver des partenaires, c'est assez compliqué de convaincre quelqu'un de venir sur son temps personnel. Là, je parle des intervenants pour venir à notre événement. Voilà, c'est compliqué à organiser, mais c'est motivant et c'est un projet intéressant.
Et vous êtes combien au total?
On est 9.
Et vous êtes divisé en plusieurs pôles?
Oui, c'est ça. Du coup, avec Lucie, on est 2 chefs de projet, mais on a encore un autre pôle. Moi, je suis dans le pôle partenariat donc et intervenant. Donc, je m'adresse aux potentiels partenaires et aux potentiels intervenants pour les faire venir à notre événement. Ensuite, on a le pôle communication. Je pense que c'est assez explicite. Du coup, c'est toute la création du compte Instagram, des visuels, du print. Des réels, etc. Ensuite, il y a le pôle scénographie. Donc là, c'est toute la déco liée à notre événement. Et le pôle budget aussi, pour respecter le budget.
Lucie, toi, du coup, tu fais partie du pôle communication. Est-ce que ça, c'est une partie très importante de la création de l'événement? Parce que finalement, s'il n'y a pas de communication, il n'y aura personne à l'événement.
Oui, alors bien sûr, je pense que c'est vraiment la partie un petit peu à part, parce que ça ne va pas faire... le contenu de l'événement, mais on en a vraiment besoin pour pouvoir le promouvoir, parce que on est en train d'apprendre, mais c'est vrai que tout le monde ne vient pas à un événement étudiant. La famille et les amis, c'est pas suffisant. Ça serait bien d'essayer de toucher un petit peu tout type de public. Donc oui, la communication, c'est super important, et on aimerait vraiment pouvoir avoir de la visibilité autant sur les réseaux sociaux que même dans la rue, dans les bars, avec nos affiches.
Vous deux, vous êtes toutes les deux du coup étudiantes en information communication. Et en fait, ce projet, c'est votre projet de fin d'études, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et du coup, comment ça se passe? Comment c'est intégré dans votre parcours scolaire?
Eh ben, en fait, donc pendant 2 ans, on a eu des cours liés à l'événementiel, la gestion de projet, la scénographie, etc. Et en tout début d'année, vraiment, on n'a pas attendu dès début d'année. Les profs nous ont mis en groupe, on a tiré au sort les thèmes, on a commencé la réflexion. Et en fait, c'est un projet qui est mis en place depuis 3 ans. Ça se passe tous les ans comme ça depuis 3 ans. C'est mis en place dès le début de l'année.
Et du coup, maintenant que la date de fin approche, quelles compétences vous avez pu tirer de toute l'organisation, tout ça? Qu'est-ce que vous avez appris?
Je pense qu'on a tous appris déjà à respecter des deadlines. Parce que au début, comme l'a dit Maëlys, on a commencé depuis septembre, mais c'était beaucoup de réflexion, de recherche, etc. Mais en fait, le côté pratique, il a commencé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, tout s'est accéléré. Donc, je pense que on est vraiment rentré dans le monde professionnel d'un seul coup. Donc, oui, respecter les deadlines, prendre des initiatives, appeler des professionnels, tout ça, c'est vraiment, je pense, les compétences les plus importantes qu'on a développées. Ouais.
Maëlys, tu es d'accord avec ça? Ça a pu développer beaucoup de compétences.
Oui, oui. Et je dis, moi, ce serait plus par rapport à parler à des gens, parler à la radio, appeler des professionnels. C'est vraiment l'oralité. Moi, je sens que mes compétences orales se sont développées grâce à ce projet.
Et justement, ça fait peut-être un lien avec votre parcours scolaire qui continue vers l'événementiel, Maëlys.
Non, moi je commence. Je continue pas vers l'événementiel non plus, parce que en fait moi je suis quelqu'un d'assez stressé, et c'est quand même des projets qui sont très prenants énergétiquement parlant. C'est très stressant, donc c'est super comme projet, c'est ultra inspirant, motivant, mais juste comme projet de fin d'études.
Une pression qui est peut-être dure à gérer ouais. au quotidien, oui. Mais du coup, ça vous a permis d'apprendre ça aussi, la gestion du stress, j'imagine.
Oui, exactement. Aussi, oui.
Et est-ce que du coup, vous avez pu acquérir des compétences, tous vos cours d'avant, ils vous ont aidé à préparer ce grand projet ?
Oui, totalement. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce que ça fait 3 ans qu'on est en communication et donc ça devient naturel pour nous. Mais c'est vrai que quand j'en parle, par exemple, à des amis ou des connaissances, j'ai des réflexes que eux n'ont pas. Et j'ai, par exemple, pour viser un public, il a fallu prendre des connaissances qu'on a eues depuis 3 ans et même tout ce qui est technique de communication, même pitcher le projet à l'oral à des gens qu'on connaît pas. Tout ça, c'est des compétences qu'on a eues depuis 3 ans. Donc oui.
Maëlys, Lucie, vous restez avec nous. On continuera à en parler juste après. On redonnera toutes les infos pratiques en fin d'émission. Mais juste avant de passer à notre deuxième sujet du soir, on va écouter un podcast du Graal de l'Histoire.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Étiez-vous né en 1983 ? Sachez qu'il s'en est fallu de peu pour que votre vie soit bien différente, voire même n'avoir jamais existé. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983 dans le village de Kourilov, au sud de Moscou, en Russie, pour les nuls en géographie. Il y a là une base militaire ayant pour rôle de surveiller les tirs de missiles ennemis. Il est minuit 15 quand les alarmes se mettent à sonner. Le système informatique d'alerte antimissile a détecté une attaque. Un missile, non, deux, trois, quatre missiles viennent d'être lancés depuis une base américaine. Il n'y a pas de doute, le satellite Cosmo 1382 est formel. L'officier de garde doit alors analyser la situation. Mais il n'a que quelques minutes. Il doit transmettre l'information, ce qui va déclencher une riposte nucléaire et une guerre destructrice. Mais il a un doute. Pourquoi juste 4 missiles ? Quitte à déclarer la guerre, autant annihiler l'ennemi directement. Et si c'était une erreur informatique ? Il désobéit alors à la procédure et classe l'information comme une fausse alerte. Bien lui en a pris. Un diagnostic a mis en cause le logiciel du satellite qui a interprété des réflexions de lumière comme des missiles qui donc n'avaient jamais existé. En cette nuit de 1983, Stanislav Petrov a sauvé la Terre d'une guerre nucléaire. À bientôt pour un prochain Graal de l'Histoire.
Vous pourrez retrouver les podcasts du Graal de l'Histoire dans l'onglet Podcast Plus du site internet du coup de Radio G. Et on passe tout de suite à notre deuxième sujet du soir.
8h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Bonsoir Willy.
Salut Nolwenn.
Ce soir, tu viens donc nous parler de la 4e soirée de cours en folie. Ça sera le 7 avril. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes cette soirée ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Cours en folie, parce qu'on n'en est plus à notre première, là ça va être quand même la 14e depuis qu'on a commencé. En fait, c'est une soirée de projection qu'on fait aux Folies Angevines à peu près une fois par mois, donc de courts-métrages, de gens en tout cas qui l'ont de la région. C'est-à-dire que nous, on est une association Cours et 49, on fait des courts-métrages, mais on projette pas uniquement les nôtres. Voilà, on en fait un appel à films, et puis les gens de la région qui veulent nous proposer leurs films nous l'envoient.
Et pour cette 4e soirée, est-ce que vous avez reçu beaucoup de films ?
On reçoit des films un peu en continu. Donc après, là, on a programmé des films qu'on a pu recevoir il y a déjà 6 mois, comme il y a 15 jours, quoi.
Et du coup, si on parle un petit peu de la programmation, je crois qu'il y aura, si je compte, il y aura 6 films.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous faire un petit détail du contenu des films qu'il y aura à la soirée ?
Ouais, alors rapido, je vais pas tout spoiler non plus. On a 6 courts-métrages, qui vont de 2 minutes 20 à 1 demi-heure. Donc il y a vraiment de tout. Juste pour rappeler rapidement le concept, on projette un film et juste après le film, on a à peu près 10 minutes de discussion avec le réalisateur. Et donc là, on va avoir effectivement 6 films. Donc il y en a un, c'est un Nikon, qui a été fait pendant le Nikon, donc qui dure 2 minutes 20. On va avoir un film qui a été fait par l'association Corée 49, donc Fleurs Sauvages, qui lui dure 1 demi-heure, c'est le plus long. Et puis après, on va avoir pas mal de petits films. Alors après... je vais peut-être pas non plus spoiler le contenu, mais enfin vraiment on a tout type, on a de la comédie, on a il y en a un, il y en a même Kintsugi qui est plutôt, alors il y a un propos et il y a une illustration chorégraphique derrière, donc c'est assez original, c'est difficile à expliquer, c'est pour ça qu'il faudra venir le voir.
Et du coup, est-ce qu'il y a une grande diversité ? Il y a une grande diversité, tu l'as dit, dans les genres, mais est-ce que dans les réalisateurs aussi, on retrouve tout type de personnes, des personnes qui s'y connaissent plus ou moins en cinéma ?
Bah, en général, oui, de toute façon, on n'est pas sectaire à la sélection. C'est-à-dire qu'on a très bien pu programmer des gens qui avaient fait un film avec un iPhone, par exemple, comme vraiment des films très aboutis avec une production.
Et est-ce que, justement, c'est la 14e soirée, tu le disais, est-ce que ça marche bien ? Est-ce qu'on peut faire un retour ? Vous en retenez quoi de ces 13 premières, du coup, éditions ?
Bah ouais, ça marche plutôt bien. En fait, on avait commencé début 2023, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. On avait fait 2 saisons à 6 projections, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Et puis là, cette année, on n'en avait que 4, malheureusement. Mais non, ça marche bien. Et plus le temps passe, en fait, plus on a de monde. La dernière fois, on a rempli la salle et on a même dû... refuser des gens.
Et est-ce que vous voyez certains réalisateurs après continuer justement à toujours faire des films et peut-être monter un petit peu, évoluer ?
Oui, oui, il y en a eu quelques-uns. Bah, Victor Sesca, alors, qui n'est pas d'Angers, lui, il est de Vendée, et qui avait commencé par des petits films, et là, qui avait fait un film qui s'appelait Fortissimo, qu'on avait projeté l'année dernière, qui est même d'ailleurs sur Canal Plus VOD maintenant. Donc c'est un film qui dure un quart d'heure, mais qui marche très très bien, et dont Courrier 49 était coproducteur d'ailleurs.
Et quel type de public on retrouve à ces soirées-là ? C'est des amateurs de cinéma, beaucoup des réalisateurs ou alors vraiment tout le monde ?
Il y a un peu tout le monde. Bah, c'est quand même des gens, oui, qui aiment aller voir des films. Après, en tranche d'âge, vraiment, ouais, on a des étudiants, on a des... Enfin, non, tout ça va vraiment de... Je crois que j'avais dit 18, aller à 80. J'en sais rien, mais c'est à peu près cette tranche d'âge.
Et tu le disais, il y a des étudiants aussi, peut-être, qui sont en école d'audiovisuel, de cinéma ?
Ouais, on en a, bah, notamment de Studio M, qui est l'école d'audiovisuel là, sur Angers, entre autres. Et on en a d'ailleurs, on a dû diffuser déjà 2-3 films d'étudiants de Studio M. Ouais.
Et si on parle plutôt maintenant de l'association Cours et 49, c'est pas uniquement ça votre rôle, vous faites aussi d'autres choses au cours de l'année ?
Bah, l'association Cours et 49, ouais, a été fondée en octobre 2014, donc elle a un peu plus de 10 ans. Et le but à l'origine, c'était que bah, des gens qui aiment le cinéma, qui ont envie de faire des films, puissent les réaliser, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc là, c'est des gens qui se réunissent pour s'entraider à faire des films. Donc ça, c'est l'idée principale. Maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu étoffé. Donc voilà, on fait des soirées de projection, on fait des fois un petit peu des ateliers aussi d'initiation pour les gens qui veulent découvrir.
Willy, tu restes avec nous. On rappellera toutes les infos pratiques en fin d'émission. Mais juste avant tout ça, on va passer à la chronique avec toi, Tonton Albert. Alors mon tonton, retour à la littérature et ce n'est pas un poisson d'avril.
Eh bien oui, Nolwenn, me voici à nouveau avec des poches sous les yeux. Et comme il est arrivé que Pierre Benoît me gronde parce que je faisais la part un peu trop belle à la littérature étrangère, aujourd'hui je suis venu avec 2 bouquins écrits directement en cocorico. L'un de ces 2 romans n'est plus tout jeune, j'en connais d'autres, et l'autre est bien plus récent. En gros, je ratisse large, tu vois, au moins en ce qui concerne les auteurs. Commençons par « La promesse de l'aube » de Romain Gary, paru en 1973. Nous n'étions même pas nés, ni toi ni moi, enfin surtout toi. C'est le récit autobiographique de son enfance et de sa jeunesse avec un personnage central qui n'est autre que sa mère. Une mère russe et juive de référence, tellement archétypale qu'elle en est caricaturale, autant attachante qu'exaspérante. Un personnage avec lequel le lecteur ne va pas s'ennuyer. Et un lecteur va se dire simultanément...
Je préfère que ce soit tombé sur Romain Gary que sur moi.
Je ne te le fais pas dire. Faut-il préciser que le jeune Romain Gary et sa mère forment une famille monoparentale, comme on dit aujourd'hui, ce qui accroît indéniablement la force du lien qui les unit. L'amour maternel de cette femme seule pour son fils unique s'avère hors du commun. Et ses réactions, comme ses objectifs, sont démesurés d'une totale extravagance. À ses yeux de mère, son fils étant exceptionnel, il ne pourra avoir qu'un destin d'exception. Et elle va tout faire pour y parvenir, en changeant toutefois régulièrement le but professionnel à atteindre et plongeant régulièrement le fiston dans l'embarras. Le jeune Romain passera ainsi du concertiste de renommée internationale au sportif de haut niveau, ou encore du poste de diplomate au service de la France à la position d'écrivain reconnu.
Ce qui finira d'ailleurs par se produire.
Pour ce qui est du poste de diplomate et d'écrivain, oui, assurément. Il est tout de même extraordinaire que les rêves de grandeur de cette femme pour son fils aient fini par se concrétiser. Ironie féroce de l'histoire, la mère de Romain Gary décédera avant que son fils ne devienne, d'une part, consul de France à Los Angeles, et d'autre part, cet écrivain étonnant, deux fois lauréat du prix Goncourt. Mais au-delà de son côté prophétique, La promesse de l'aube est un roman qui nous transporte de la Pologne à la France dans la première moitié du XXe siècle, période troublée s'il en fut. Or, ce qui pourrait être tragique, Romain Gary et sa mère ne vivent aucunement dans l'opulence, va fourmiller d'anecdotes pleines de drôleries. L'humour de Romain Gary n'est plus à démontrer, mais indéniablement, dans La promesse de l'aube, l'auteur ne ménage pas les zygomatiques de ses lecteurs. Je vous ai choisi deux extraits parmi des dizaines d'autres. Si après ça vous doutez encore de l'aptitude de Romain Gary à manier l'ironie, je ne peux plus grand-chose pour vous. Romain Gary va ainsi évoquer la découverte de l'inconscient chez Sigmund Freud en créant un curieux parallèle. Le béotien que je suis s'incline respectueusement devant le complexe d'Œdipe, dont la découverte et l'illustration honorent l'Occident et constituent certainement, avec le pétrole du Sahara, une des explorations les plus fécondes des richesses naturelles de notre sous-sol. Plus loin dans le récit, alors que Romain Gary assiste impuissant à la débâcle de juin 40, il essaye de convaincre ses collègues aviateurs de continuer le combat depuis l'Angleterre. Manifestement, ces tentatives ne parviennent guère à dissiper le parfum de défaite qui escorte les faits et gestes des militaires de la base aérienne où il a échoué. Voyez plutôt le portrait qu'il dresse de l'un des pilotes qu'il sollicite. « Ses petits yeux me regardaient sans la moindre trace d'expression, pendant qu'une main sur le cœur, je chantais la beauté de la mère patrie, notre volonté de continuer la lutte, l'honneur, le courage et les lendemains glorieux. » Dans le genre bovin, il avait incontestablement de la grandeur. Chaque fois que je lis quelque part qu'un bœuf a remporté le premier prix au comice agricole, je pense à lui. Vous l'aurez compris, si ce n'est déjà fait, La promesse de l'aube est à lire absolument. Le livre a été porté à l'écran en 2017 avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg dans les deux rôles principaux.
Et ton autre conseil lecture, c'est ?
Le discours de Fabrice Caro. Fabrice Caro peut être plus connu sous l'identité de Fab Caro. L'auteur est réputé pour s'atteler surtout à la bande dessinée. On lui doit notamment le fameux Zaï 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 adapté au théâtre. Fabrice Caro écrit donc aussi des romans. Le discours est l'un d'entre eux.
C'est quel type de discours, un discours politique ?
Pas du tout. Il s'agit pour Adrien, le protagoniste de l'intrigue, de rédiger un discours et de le déclamer lors du mariage de sa sœur Sophie. C'est Ludo, le futur beau-frère d'Adrien, qui a eu cette idée géniale. « Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » Autant vous le dire tout de suite, même si l'on a accepté l'idée, Adrien ne la trouve pas du tout, mais alors pas du tout, géniale. Et il s'en mord les doigts d'avoir accepté. D'autant que pour lui, sur le front des roucoulades, c'est en train de partir en quenouille. Sa chérie, prénommée Sonia, a en effet décidé et imposé à Adrien de faire une pause dans leur relation. Ça ne sent pas encore franchement le roussi, mais un peu quand même. 36 jours de pause déjà, et notre Adrien n'y tient plus. Alors qu'il s'était juré de se la jouer sphinx, à savoir garçon impassible, conscient que le temps joue pour lui, il craque. Il envoie un SMS à sa dulcinée, un message dont la réponse tarde à lui parvenir et qui par conséquent alimentera toutes les supputations les plus farfelues. Et sur le plan du farfelu, Adrien a du répondant. Si la belle Sonia ne lui répond pas, bien qu'elle ait lu son message 20 minutes après qu'il lui ait envoyé, c'est évidemment qu'elle a eu un accident, précisément à cause du SMS reçu et qui l'a distraite de sa conduite au volant de sa voiture. Sainte culpabilité, priez pour lui. On l'aura rapidement perçu avec le personnage d'Adrien, le hautement improbable devient certitude irréfutable. Et bien évidemment, la contagion va gagner la problématique du discours. Les versions de discours les plus abracadabrantes, voilà, merci, vont se succéder, oh là là, c'est laborieux là, dans la caboche bien secouée du gars Adrien, ce qui offre de belles opportunités d'hilarité pour le lecteur. C'est bien connu, on rit toujours du malheur d'autrui. D'ailleurs, vous avez dû rigoler de mes dérapages. Ce qui est ici rassurant, c'est de voir que Fab Caro, alias Adrien, alias tous les bras cassés sans exception de ses romans, rit de lui-même. Des situations improbables dans lesquelles il va se fourrer alors qu'il serait si simple de ne pas s'y précipiter. Mais tu me le diras, cher Nolwenn.
Sauf que s'il n'y a pas de galère, il n'y aurait pas d'histoire et donc pas de bouquin.
Tout juste. Et on pourrait même ajouter, et pas de chronique de Tonton Albert, ce qui vaudrait peut-être mieux. Aussi, comme l'air du temps n'incite guère à la gaudriole, on ne va pas bouder son plaisir devant des bouquins qui redonnent le sourire. Attention, le sourire n'exclut pas la causticité. Cet humour subtil et un tantinet désespéré. Je ne vous apprends rien. Une louche de Romain Gary et trois comprimés de Fab Caro à n'importe quel moment de la journée et ça devrait aller mieux. À bientôt pour d'autres poches sous les yeux.
Et il est déjà temps venu l'heure de nous quitter pour cette émission de lundi. En début d'émission, donc, on était avec deux étudiants de l'UQO venus nous parler de l'événement « Qui es-tu ?» QI. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cet événement, Maëlys, Lucie, peu importe.
Donc, cet événement à retenir, c'est un grand jeu de plateau, grandeur nature, pour tester les 9 types d'intelligence qui vous composent. Ça se passe donc le 10 avril 2025 au Salon Kurnansky et vous pourrez retrouver plein d'intervenants qui viendront parler de leur expertise dans leur métier.
Entrée libre et gratuite, c'est ça ?
C'est ça. Oui.
Et est-ce qu'on a peut-être des réseaux sociaux, un site internet pour retrouver toutes les infos pratiques ?
On a un compte Instagram qui s'appelle QIESTU.event où vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques, tous les intervenants et nos recherches globales.
On pourra vous retrouver, vous deux, le jour de l'événement au salon.
Aussi.
Bien sûr.
Et ça ne va pas trop stresser à l'approche de l'événement à moins d'une semaine ? Comment on gère les derniers instants ?
On gère comme on peut.
Voilà, c'est ça. Non, franchement, je pense que le plus dur est passé. Oui. Et le jour de l'événement, ça sera que du kiff.
Parfait. Ben, on vous souhaite beaucoup de courage et nous, on espère retrouver des auditeurs là-bas le 10 avril. En deuxième partie d'émission, on était donc avec toi, Willy. Si on rappelle les infos pratiques de cette soirée, donc ça sera le 7 avril au Folie Angevine.
Ouais.
Est-ce qu'entrée libre, gratuite, payante ?
Non, il y a toujours une entrée, c'est 6 euros, mais sauf qu'il y a une boisson qui est incluse dedans, donc de toute façon, voilà, c'est quasiment le prix de la conso. Il y a possibilité de réserver dès maintenant, parce que ça va assez vite, donc soit sur notre site, cours49.fr, et il y a une rubrique Cours en folie, sinon ça peut aussi se faire sur le site des Folies Angevines, il y a l'événement. Voilà, donc dans une semaine, lundi 7 avril à 20h au Folie Angevine.
On note la date, c'est noté pour nous. Mardi, on sera avec le Théâtre du Champ de Bataille. Mercredi, il n'y aura pas d'émission Topette pour cette semaine. Ça sera plus qu'une semaine sur deux maintenant pour un mois. Et jeudi, on sera avec la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin et également Angers Night Fashion. Et moi, je vous dis à demain et Topette.
G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.